Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Nouvelles Portes. Je suis vraiment, vraiment très, très content de vous accueillir pour cette nouvelle année, année 2019. J'aurais mis un petit peu le temps à redémarrer, mais ça vaut vraiment le coup. Vous allez voir, c'est Kate que je reçois. Kate est psychologue et sexologue. Et Kate s'intéresse à tout ce qui tourne autour du fantasme, autour de l'imaginaire, du rêve, le rapport qu'on a entre rêve et réalité, le rapport qu'on a à soi, le rapport qu'on peut avoir aussi avec l'océan, avec la téléportation, le rapport qu'on peut avoir avec les monstres aussi, et puis le rapport qu'on peut avoir tout simplement en écoutant ce podcast, que vous allez voir est une expérience en soi, dans le sens où nous allons basculer d'un début qui se passe dans un endroit bien calme, à la suite ce qui se passe au bord de la Saône. Petite coupure, petit problème technique, mais comme à chaque fois, autant commencer l'année sur de bonnes augures, je respecte mon engagement de ne pas couper et de faire avec ce qu'on a. Voilà, donc je vous propose de découvrir ce podcast. Laissez-vous gentiment glisser dans le pays de l'imaginaire. Alice n'est pas loin et je vous souhaite un bon voyage. Bonjour Kate.
Salut Fab.
Tu vas bien Kate?
Ouais, je vais hyper bien.
Bon, la première question, histoire que les personnes qui écoutent puissent un peu savoir, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie?
Qu'est-ce que je fais de beau dans la vie en ce moment? Je me téléporte.
Tu te téléportes? Ok.
Je me téléporte pour de vrai, mais non, qu'est-ce que je fais de beau? Tu veux mon métier, par exemple?
Oui, par exemple. On peut définir par une profession.
Je suis sexologue, psychologue, du coup, à Lyon. Voilà.
Ok.
Et du coup, soit je reçois des patients, soit je fais des projets de recherche divers et variés sur, par exemple, la téléportation.
Ok. Qui sera ton premier sujet de curiosité, peut-être?
Tu
l'as dit déjà deux fois en
une minute. C'est parce que je l'adore, je suis hyper contente d'en parler.
Et alors, juste avant qu'on parle de ce sujet-là, pourquoi sexologue, psychologue?
Pourquoi? Parce que j'étais et je suis toujours passionnée par l'amour, on va dire, et la sexualité dans son ensemble. Parce que je trouve que c'est un sujet qui est vaste, déjà, très vaste. Donc on peut aller explorer de tous les côtés. Et en plus de ça, on transmet vachement d'enthousiasme et de bonheur aux gens, en fait, par ce biais-là. On leur permet de se libérer, je dirais un petit peu, d'eux-mêmes. Et d'aller, explorer de nouveaux horizons chez eux, avec les autres, dans le partage.
C'était venu à quel âge, ça?
Ça m'est venu, ça m'est venu réellement à 17 ans à peu près, quand j'ai vraiment voulu faire des études là-dedans. Mais à la base, je m'y intéresse depuis toujours. Quand j'ai dit à mes parents je vais être sexologue, mes amis, tout le monde m'a dit tu m'étonnes. ça a surpris personne. Hein,
une évidence, quoi.
Une évidence, on va dire. Et puis après, je suis tombée sur une conférence d'un sexologue qui s'appelle Pascal de Sutter, qui était assez. En fait, c'était un peu un one-man show. Et je trouvais ça super marrant la manière dont il parlait de sexualité. Les gens, ils sont sortis, ils étaient ravis et rigolés. Et je me suis dit, mais attends, moi aussi, je veux faire ça. Donc c'était même limite le côté conférence qui m'intéressait plus que le côté résolution de problématiques.
Ok.
Voilà.
Et du coup, le côté conférence, t'en fais un
peu j'en ai fait, j'en ai fait une ou deux avec toi, mais j'en fais un peu. C'est pas si simple que ça en fait, parce que le sujet de la sexualité, ça fait peur vraiment. Enfin, les gens sont curieux, mais dès qu'il s'agit de finalement mettre en place des projets, en général, il y a une petite résistance qui s'installe. C'est-à-dire, bon, de quoi on va parler? Comment est-ce qu'elle va en parler? Est-ce que j'ai envie d'être associée à ça? Qu'est-ce que les autres vont penser si je suis associée à ça aussi?
Et toi, du coup, en tant qu'experte du sujet de la sexualité dans le sens large, c'est-à-dire la sexualité, amour, enfin expression de l'amour, t'expliquerais comment justement qu'il y a encore un gros tabou là-dessus, ou d'où est-ce que le tabou vient? Est-ce que c'est parce que c'est de l'intimité?
Parce que ça parle de vraies choses. C'est comme dire je t'aime, je dirais. C'est un peu la même chose. C'est que c'est très facile de dire je te déteste, tu m'énerves, mais d'aller dire à quelqu'un je t'aime quand ça parle de toi, de ce qu'il y a au fond, de la sincérité, c'est une mise à nu en fait de soi. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il y a des tabous déjà dessus. Et puis après, en soi, la sexualité, elle est pas taboue. On en parle de partout. On a plein de publicité sur le cul de tous les côtés. Mais quand on parle de vraie sexualité, c'est-à-dire ouais, de nous, en fait, là, on a un peu plus de mal à se livrer. C'est un peu plus compliqué. Quand on écoute les gens, tout le monde a une sexualité de dingue, évidemment. On est tous ouverts d'esprit. Voilà, tout va bien, quoi. Dans mon cabinet, c'est pas la réalité. On voit bien que les gens, en fait, finalement, ils ont du mal à connecter avec l'autre, à être authentiques, à aller creuser, ouvrir la boîte de Pandore, comme je dis, de leur fantasme. Ça
Ouais,
fait
parce qu'ils
peur.
ne s'autorisent pas forcément à complètement se libérer avec
À
leur
lâcher
partenaire.
prise. Et puis, ça parle vachement. Enfin, même, ça se voit. En fait, si tu veux, ce qui est marrant, c'est que ça parle aussi de ta personnalité. Si tu as du mal à lâcher prise dans le reste de ta vie, en général, dans ta sexualité aussi, tu as du mal à lâcher prise. Tu te mets. T'as beaucoup, on est beaucoup construit via des mythes, des croyances, des stéréotypes aussi. Du coup, d'aller déloger tout ça de sa conscience, c'est un travail. Il faut avoir envie d'y passer du temps. Voilà. Tout le monde peut regarder un documentaire sur l'escalade, mais de là à aller grimper sans t'attacher à une paroi, c'est plus difficile.
Ouais.
Voilà, pour faire une analogie
Et
avec
oui,
l'escalade.
pourquoi pas, bon, c'est ça. On grimpe pas la montagne
Bah,
plutôt
d'aller
que grimper au
explorer
rideau.
une autre, un autre. Voilà. C'est quoi? Verticalité. Enfin.
Ce que je trouve intéressant dans le sujet de la sexualité, c'est le côté. C'est un peu comme les frites, tu vois, normalement. Enfin, tout le monde est censé aimer les frites. Comme quoi, tout
Ouais.
le monde est censé aimer la sexualité.
Ouais, alors.
Est-ce que, par exemple, en dehors des personnes qui ne l'aiment pas parce qu'ils ont des blocages ou parce qu'ils ont des peurs ou des choses comme ça, est-ce que tu as déjà rencontré dans le cadre de tes études ou ton travail des personnes qui n'avaient vraiment aucun intérêt pour l'expression de l'amour par le physique et par la sexualité?
Non, en fait, j'en ai pas rencontré, mais par contre, moi, je pars souvent, ce que je dis aux gens, on me dit tout le monde aime le sexe, et ben, je suis absolument pas d'accord. Enfin, c'est pas vrai, la plupart des gens ne s'y intéressent pas, et aimer la sexualité, c'est être curieux déjà de la sexualité, et en soi, ça, c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Alors après, en soi, quand on se met à discuter avec les gens, d'un coup, ils s'ouvrent, ils se disent, ah ouais, il y a un monde des possibles. Mais au prime abord, les gens s'y intéressent pas nécessairement. En fait, ils le font. Voilà.
Ouais.
Mais ils s'intéressent pas, sincèrement, à ce sujet, je pense, pour la plupart.
Ouais, donc tu restes un peu
Mais voilà.
limité sur la
Après,
manière de faire que tu as tout le temps entendu autour de toi.
des gens asexuels, bon, ça existe. Après, moi, j'en ai pas rencontré. J'imagine qu'il y en a vraiment qui s'y intéressent pas du tout. Mais j'ai un peu du mal à me détacher du fait que c'est parce que on n'a pas réussi à leur donner justement une vision qui pourrait. En fait, ils n'ont pas trouvé leur sexualité à eux, pour moi. Parce que la sexualité, c'est pas que de la pénétration. Enfin, il y a plein d'expressions de la sexualité.
Et du coup, c'est quoi un peu toi, pour toi, les différents champs d'exploration qui se font par la sexualité?
Les différents champs. Ouh, il y en a des tonnes. Je pense que le champ d'exploration, c'est soi. En fait, c'est comme les rêves.
Ouais.
Bizarre de dire ça, mais c'est comme d'aller creuser dans ses rêves. C'est soi avant tout, et puis après, c'est ta connexion avec l'autre. Comment est-ce que tu vas t'interroger toi-même dans la relation à autrui. C'est un peu bizarre ce que je dis, non?
Ok,
Ouais.
par l'expression
Voilà, donc
du
je pense que
corps.
ça, c'est général ce que je dis, mais après, voilà, tu peux aller explorer tes fantasmes, tu peux aller explorer tes sensations corporelles, tu peux aller explorer du coup l'échange avec l'autre et comment est-ce que tu vas lui retransmettre tes envies sans la parole, comment tu vas verbaliser ta sexualité aussi. Ouais, c'est super vaste quand même, hein.
Oh, mais je me doute. Mais du coup, de ton point de vue, alors là, pareil, je mets un pied dans la porte parce que ça m'amuse sur ce sujet, mais souvent, c'est associé à sexualité entre deux personnes.
Oui, complètement.
Et
Alors
donc,
que.
si on part d'une expression de soi, c'est vrai que c'est peut-être plus facile ou peut-être plus adapté de le faire ça avec une autre personne, mais si on est vraiment dans une logique d'exploration par le tactile, par le corps, par toutes ces choses-là, ça peut se faire aussi, dans ce cas-là, en groupe ou.
Bah, ça peut se faire en groupe, ça peut se faire avec soi-même tout seul. Par exemple. Pour parler par exemple de soi-même tout seul, il y a plein de gens qui, dans leur masturbation, par exemple, ils vont le faire pour décharger quelque chose. Donc très rapidement, hop là, je sors de la douche, je le fais vite fait, puis après je vais au travail. Et moi, mes patients, je leur dis toujours, mais prenez le temps, c'est génial, faites-vous votre petit kiff, tranquillou, tu t'installes, tu te mets ta petite lumière, tu fais ton truc et tu passes un moment avec toi-même, mais pour de vrai, en fait. C'est là où c'est intéressant. Tu viens te dire, bah, je vais tester différents sens. Je vais, par exemple, au lieu de regarder une vidéo, je vais écouter. Je vais, les érotiques audio, par exemple, qui existent. Je vais écouter, je vais voir comment est-ce que mon corps réagit à ça. Je vais me mettre dans le noir, je vais mettre avec beaucoup de lumière, enfin, essayer de tester des choses différentes. Et après, en groupe aussi, il y a plein de choses à tester. C'est même un truc tout bête. Bon, je vais en parler parce que ça va faire rire mes colocs, mais à chaque fois, je leur dis, j'adorerais faire des mardis à poil. Bon, ils veulent pas. Je dis juste pour voir qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on se vit nu? Et je pense qu'au début, on va être un peu gêné, c'est bizarre, on se sexualise, et puis petit à petit, il y aura quelque chose de normal qui va s'instaurer, de même peut-être drôle, en fait. Et voilà, donc même ça, c'est de la sexualité, en fait.
Ouais,
Même sans faire l'amour, en fait. D'être. Ouais, ça peut être ça. Il y a plein de choses à faire. Dans les groupes aussi, ça peut être intéressant. Ouais.
mais... Et donc, on peut aussi le faire en se téléportant, c'est ça?
Voilà. Ça, c'est mon sujet
Alors,
de curiosité
vas-y,
du moment.
dis-moi alors ton sujet de curiosité du moment.
Ouais, je dis qu'en ce moment, je me téléporte parce qu'en ce moment, je suis en train de travailler sur un projet de cybersexualité. En ce moment, ils disent digisexualité. C'est le nouveau terme qui vient de sortir.
Digisexualité,
Ouais, c'est comme
d'accord.
ça qu'ils appellent ça. Je suis en train d'essayer de faire l'amour avec un océan. Enfin, avec l'océan en général, donc 80% de la surface du globe, hein, quand même.
Ça fait beaucoup de monde là pour le
Ça
coup.
fait beaucoup de monde. Ça fait un gros sujet. Et du coup, par le biais en fait de la technologie immersive actuelle, des nouvelles technologies, et un travail personnel de conditionnement, d'expansion de conscience justement, pour être à même de, comme je dis, de sortir en fait mon désir de l'anthropocentrisme. Donc en gros, de notre objet de désir en général, ça va être l'humain ou le vivant qu'on va personnifier un peu. Et c'est difficile de fantasmer sur, par exemple, un océan, un séisme ou, je sais pas, un orage, par exemple. Enfin, je donne des exemples comme ça, mais donc d'arriver à ouvrir ces portes-là, c'est ce que j'appelle en partie de la téléportation dans l'imaginaire, construire des fantasmes, construire une autre représentation d'un élément. Voilà. Et du coup, mon sujet, donc c'est un peu ce lien à ce que je fais, donc pour expliquer un petit peu ce que je fais, parce que je pense que c'est pas très simple. En gros, avec Aurélien Fache, donc qui travaille dans la réalité augmentée principalement, il a eu le projet de faire l'amour avec un océan. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est comment est-ce qu'on va réaliser ça? Donc, on a eu toute une partie de conditionnement en amont. Donc, par exemple, je m'endormais avec des bruits d'océan, j'écrivais des récits sur l'océan pour essayer de enfin de détricoter le fil d'Ariane de ma pensée, on va dire, de mon imaginaire, pour construire des représentations un peu variées de cet univers-là. Et puis après, je me suis conditionnée aussi à chaque fois que je me masturbais, j'écoutais des bruits d'océan. C'est un petit peu, peut-être l'expérience de Pavlov, il y en a qui connaissent un petit peu, mais en gros, c'était pour créer un réflexe conditionné. Donc à chaque fois que j'entends des bruits d'océan, bam, ça me fait penser au sexe, et du coup, ça me donne envie, ça m'excite. Voilà, donc on a fait ce premier travail-là en amont.
Et lui, ça lui est venu d'où cette idée de se dire faut explorer faire l'amour avec l'océan?
Lui, c'est quelqu'un qui a un imaginaire surdéveloppé, je dirais, qui aime vivre dans d'autres mondes. Voilà. Et du coup, il a commencé par des projets annexes comme s'appelait In Bed with Thomas Pesquet, par exemple, où il connectait des sextoys avec la navette spatiale. Et en gros, à chaque fois que la navette spatiale passait au-dessus de la France, tous les sextoys se mettaient à vibrer. Donc à la base, c'était plutôt des projets un peu. Enfin, c'était juste du code, pour être honnête. Et puis, il a fait une conférence où il s'est dit bah, avec quoi on peut faire l'amour? Et il a pensé à ça. Donc il a cité, par exemple, In Bed with Ocean et puis d'autres choses, In Bed with Storm, etc. Et moi, je suis allée lui parler. Je lui ai dit bah, ça m'intéresse, mais par contre, j'aimerais bien, en fait, aller au-delà de coder des données météorologiques sur des sextoys. J'aimerais vraiment avoir ce sentiment subjectif, parce que ça reste un sentiment subjectif, de faire l'amour avec un océan. Parce que ça suffit pas simplement de se dire, ok, je suis connecté. Enfin, les sextoys, ceux-là, en tout cas, fonctionnent super bien. On travaille avec une marque où des sextoys de qualité. Donc concrètement, au niveau plaisir, il y a pas de souci. Mais l'imaginaire, tout ce que tu as dans la tête, c'est encore plus puissant. Par exemple, je me suis rendu compte que finalement, j'avais même pas forcément besoin du système immersif, du casque de réalité virtuelle, de l'audio, pour partir dans mes fantasmes là-dedans. Il n'y aurait même pas nécessairement besoin de ça.
Ah, donc ça marche comment du coup? Tu parlais de la partie conditionnement
Voilà, et puis
et
après,
après
tu
tu as
as
la partie
la partie
technologique.
technologique, vraiment, donc c'est la performance, enfin, la performance en tant que telle, où là, j'ai du coup un casque de réalité virtuelle où je vois, je suis sous l'eau. Plonger sous l'eau avec des baleines, des poissons, c'est super cool. Et je suis dans mon bain, voilà. Donc je suis dans l'eau, j'ai des écouteurs du coup avec une piste audio en fait en 360 où j'entends les bruits de l'océan du coup autour de moi. Et j'ai des sextoys qui sont connectés en Bluetooth. Donc, je porte le sextoys à l'intérieur de moi. Et en gros, on a une carte où on sélectionne un point du globe et ça renvoie les données météorologiques de ce point du globe sur les sextoys. Donc, on a dû travailler, par exemple, sur comment est-ce qu'on réinterprète les données. Typiquement, on a utilisé les vagues. Donc, les vagues, elles vont en moyenne. Il y en a des fois, elles vont très haut, mais on va dire jusqu'à 16 mètres. En général, c'est maximum 16 mètres quand il y a des bonnes vagues. C'est plus souvent 2 mètres, un truc comme ça. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, le sextoys, il vibre de 0 à 10, voilà, normalement. Donc, on a fait une échelle, enfin, une corrélation de 0, entre guillemets, à 16. Et il y a des temps entre les grandes vagues. Il y a donc une vague de 16 mètres toutes les 8 secondes, par exemple. Et donc, ton sextoys, il va vibrer de manière progressive jusqu'à redescendre, comme une vague. Voilà, jusqu'à. Si y a des vagues de 16 mètres jusqu'à son maximum, si les vagues elles sont petites, bah, jusqu'à du coup 2
Ah, donc
mètres,
tu
etc.
suis un peu l'activité des courants marins et
Tu suis
l'activité
l'activité des
de l'eau,
courants
quoi.
marins, etc. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment que tu voyages. C'est que, bah, par exemple, là, la dernière fois, on a fait tout un voyage. Alors, j'ai commencé où? J'étais dans la Manche. Et puis après, je suis partie un petit peu vers Los Angeles. Donc là, il y a des grosses vagues, c'est génial. Après, je suis redescendue. Plus proche du pôle sud. Et puis après, je suis remontée quoi, dans l'océan Indien, je suis allée aussi en Australie. Et c'est assez drôle parce que du coup, tu te visualises là-bas et ça te donne presque envie. Enfin, moi, ça me donne envie d'y aller, quoi. Là, je connais l'océan. Et puis du coup, j'ai la map souvent sur moi, donc je regarde et des fois, je me dis, oh là là, j'aimerais tellement aller là-bas, tiens, ça me donne envie, il y a des grosses vagues. Après, tu deviens un peu expert de là où il y a des bonnes vagues, là où il y en a des moins bonnes, etc. Et t'as ce sentiment de connexion, alors qui est certes virtuel, mais en fait, moi, ce que j'ai trouvé super intéressant dans ce projet, c'est que, donc, au début, on s'est mis dedans, je me suis dit, bon, est-ce que je vais y arriver? En l'occurrence, c'est pas très difficile avec du conditionnement d'y arriver, mais surtout, je savais pas ce que ça allait me provoquer. Et par exemple, j'écrivais donc mes retours sur mes fantasmes, etc. Et petit à petit, ça a été de plus en plus difficile de les livrer, parce qu'en fait, ça faisait partie de mon intimité, vraiment. C'est-à-dire qu'au début, oui, alors je dis là, il y a des grosses vagues, je sens des bulles qui montent dans le corps, etc. Blablabla. Puis d'un seul coup, tu parles de toi, en fait, réellement. Tu parles vraiment de ce que t'aimes. Et ça devient difficile de les livrer par écrit à du coup, Aurélien, avec qui je travaille quand même. Donc bon, c'est un petit peu compliqué de parler de ses masturbations à quelqu'un avec qui on travaille. Donc ça devenait de plus en plus compliqué. Et puis j'ai commencé à force de m'intéresser au sujet, à m'abonner, tu vois, à tous les hashtags sur l'océan, donc à découvrir des nouveaux poissons, à regarder un petit peu tout ce qui était lié à la protection de l'océan, Sea Shepherd, etc. Et en fait, c'est par le biais de la technologie virtuelle immersive que j'ai pu connecter en fait avec l'actuel, en fait, avec le monde qui m'entoure. Avant, je m'intéressais peu à l'océan, enfin, je m'y intéressais, mais on va dire sur les côtes, en gros. Pas à ce qui se passe en plein milieu de l'océan, pas comment est-ce que les courants marins fonctionnent, pas nécessairement à la protection de l'océan à ce point-là. Donc c'est assez marrant de se dire que c'est par le biais de technologie que tu reconnectes en fait avec toi, avec ce qui se passe dans ton monde, dans ta planète. C'est ce que y a certains, par exemple les astronautes, ils parlent de l'overview effect. Je sais pas si tu en as déjà
Overview
entendu.
effect, non, ça me dit rien.
En fait, c'est le fait que quand ils partent dans l'espace, le fait de voir la planète de loin, d'un seul coup, ils ont eu un sentiment d'empathie très fort en fait avec la planète.
D'accord.
Et du coup, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti avec l'océan, c'est que, bah, à force de faire l'amour avec l'océan, tu finis par tomber amoureuse, quoi. On va dire ça comme ça.
Est-ce que ça s'apparenterait un peu au même type de ressenti que tu peux avoir quand tu sais, par exemple, là en ce moment, plus qu'avant, mais même si c'est depuis toujours, le besoin d'être connecté avec la nature et donc d'être connecté avec la forêt, par exemple, et du coup on dit d'aller faire des bains, les bains sylvestres, du coup d'aller traîner dans la forêt et de se laisser un peu bercer par tout ce qu'il y a, et ça permet d'arriver à se reconnecter avec ça, et donc de reconnecter aussi avec soi-même et à ressentir un petit peu toute la sensibilité du vivant qu'il y a autour ou quoi que ce soit.
Ouais, ça s'apparente complètement à ça pour le coup, parce que l'océan, c'est vraiment vivant. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment vivant. Donc, du coup, il y a ce sentiment-là. Et par exemple, ceux qui font de l'écosexualité, donc c'est ceux qui font l'amour aux arbres. Donc, c'est très drôle sur le principe, surtout quand on regarde des documentaires dessus. Mais en soi, bon, déjà, ça fonctionne, hein. N'importe qui se frotte contre un arbre, c'est pas très difficile d'avoir un orgasme, hein, si on le travaille pas mal. Voilà, mais au-delà de ça, c'est. Ouais, c'est accorder de l'importance à ce qui t'entoure. En fait, c'est un petit peu ce qui est de la méditation de pleine conscience, en quelque sorte. Ça touche à ça. Et du coup, hein, tu reconnectes avec toi, tu reconnectes avec la base, en fait.
Et donc par toucher et par la sexualité, c'est un médium en final qui est plutôt intéressant pour arriver à reconnecter quoi.
Ouais, complètement. Parce que dans la sexualité, finalement, d'ailleurs, on dit faire l'amour. Donc, tu crées l'amour, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Tu pourrais très bien te détacher, être complètement objectif et rester simplement sur tes sensations physiques très primaires, on va dire. Mais il faut y mettre du cœur. Il faut mettre du cœur à l'ouvrage. Donc, à partir du moment où tu mets du cœur, à partir du moment où vraiment tu viens plonger dans cette relation que tu as, nécessairement, il y a de l'amour qui se crée, en fait. Il y a un échange, tu as l'impression. Et c'est marrant parce que tu as l'impression limite qu'il y a un retour, en fait. Enfin, moi, je regarde les vagues du Rhône, des fois, je me dis, ah, non, il est un peu agité, tiens, en ce moment.
Raconte-nous J'aimerais bien que tu me fasses vivre justement ce que c'est que cette expérience. Comment ça se passe en fait une session? Parce que
Ouais.
y a aussi les bains d'immersion dans
Ouais,
lesquels tu vas
alors
faire
ça, c'est
ça.
autre chose. Mais ouais, du coup. Alors, comment se passe une session? Donc, en fait, il y a deux choses. Donc, là, en ce moment, par exemple, moi, je l'appelle. Soit je suis à Paris, soit je suis à Lyon. Donc, on peut le faire à Lyon à distance. Donc, je connecte mon ordinateur, je le mets sur une chaise à côté de mon bain, je mets mon casque de réalité virtuelle, je me plonge dans mon bain, bam. Et du coup, Aurélien, lui, il lance le programme, parce que pour l'instant, en fait, on est encore en train de travailler dessus, on n'a pas complètement terminé. Et du coup, moi, je lui fais un retour. Donc, il me laisse en général, on va dire, ça prend ouais, 8 minutes à peu près. Il me laisse 8 minutes tranquille où je vis l'expérience et après, je lui fais un retour. Bon, bah, par exemple, je sais, parce que j'ai une voix aussi qui me guide. Le problème, c'est que c'est un peu une voix robotique de type GPS
D'accord.
qui me dit maintenant, nous allons aller vers l'océan Indien, pour résumer. Et donc, du coup, parfois, ça peut te couper
Ouais,
aussi.
ça peut
Donc,
te sortir un peu
voilà,
de.
donc en fait, on travaille sur, on va dire, le lissage des données pour que ça soit plus fluide et sur la réalité virtuelle aussi, comment, qu'est-ce que je vois, etc. Et du coup, ça, en fait, ça fonctionne. Là, notre vraie question, par exemple, actuelle, c'est qu'on va le faire tester à d'autres gens qui, eux, n'ont pas été conditionnés pour voir si, eux aussi, ils arrivent à sentir une relation particulière avec l'océan. Et du coup, dans les questions d'isolation sensorielle, ce que tu demandais, les questions d'isolation sensorielle, en fait, on s'en sert pour créer une expansion de conscience. C'est-à-dire qu'à la base, il y a un chercheur qui s'appelle Lily John, qui était un médecin, qui a cartographié les états de conscience. Et du coup, il en a. Donc, il y a toute une échelle qui est possible de regarder. Et donc, tu as des niveaux de conscience différents. Par exemple, quand tu es à plus 48, c'est un état de conscience où tu vas. En fait, comment expliquer? Tu vas être sur de l'apprentissage. Tu vas aller découvrir ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. En fait, donc, c'est super difficile à expliquer. Donc, tu vas avoir plein de pensées qui te viennent,
OK.
voilà, et tu vas les accueillir. On va dire ça comme ça. Donc, tu vas, par exemple, t'as pas, quand tu es dans les questions, en fait, tu es dans une solution saline, donc tu flottes, tu es dans le noir complet, tu n'as aucun bruit autour de toi et tu as une sensation non-corps. C'est comme si tu n'avais pas de corps. C'est super bizarre. Donc du coup, tu pars très vite dans ton imaginaire. C'est un petit peu comme si tu rêvais, mais éveillé, on va dire. Donc là, il faut que tu laisses toutes ces pensées venir à toi et sans les analyser, en fait, tout simplement. Mais tu t'ouvres en fait la conscience. Après, tu as un
Même
autre
processus un peu que la méditation. Mais du
même
coup, là,
processus
le
que la
fait d'être
méditation, mais
coupé de ses sens, entre guillemets, ça fait que tu as plus de stimuli extérieurs. Donc la seule chose qui te reste comme stimuli, c'est ce qui se passe à l'intérieur,
ce
quoi.
qui se passe à l'intérieur de toi. Et du coup, donc ça, c'est la première étape. Après, tu as un autre niveau de conscience, alors à force de travailler dedans, qui est plutôt de l'ordre où tu acceptes, en fait, et tu que ton dé bah, moi, je travaille sur le désir, donc du coup, que ton désir, il puisse se porter sur d'autres sujets que l'humain. Donc, tu fantasmes sur l'océan, tu es là, tu pars dans tes. Moi, ce que je trouve très drôle, c'est que ton imaginaire, il ne corrobore pas forcément avec la réalité. Donc, par exemple, dans ma pensée, des fois, l'océan, il est un peu violet, enfin, des trucs un peu bizarres, où il a un petit caractère, des fois, il est un peu indifférent à mes envies, où il est un peu colérique, où il me donne un peu. Enfin, je sais pas, c'est un petit peu drôle, mais il
Est-ce
va
que
être
j'allais te demander, du coup,
charmant,
l'océan, tu le
etc.
vois comment? Est-ce qu'au départ, tu le personnifies, justement? Est-ce que tu raccordes ça sur un peu connoté à un homme ou à une femme? Ou
Bah, du coup,
est-ce que tu arrives complètement à te
pour moi, c'est
détacher
pas du tout
de.
un homme, une femme physiquement, c'est comme un gros. Et là, du coup, ça va être mon deuxième sujet de curiosité, c'est un peu comme un monstre. C'est une énorme masse qui te prend, qui t'enveloppe, qui te, en fait, qui te surpasse, on va dire ça comme ça. Ça serait comme un gros nuage noir qui arriverait sur, par exemple, la ville, tu vois, un petit peu dans ce sens-là. Par contre, je lui donne un, alors je le personnifie dans le sens où je lui donne toujours un caractère. Pour moi, il est calme, il est timide, il est charmant. Alors, pour le coup, je lui donne un sexe masculin dans ma tête. Donc, je pense que c'est ma grosse hétérosexualité qui revient là. Mais du coup, ouais, il a ce côté personnifié où au final, il a un caractère, il a des envies, il est pas maîtrisable. Ouais, donc voilà. Donc, il y a des moments, il est un peu brut. Des moments, il est tendre, il me câline. Voilà. Des moments, il me prend, il me plonge bien tout au fond de l'océan. Il me noie, on va dire ça un peu comme ça, puis fait remonter à la surface. C'est super bizarre d'expliquer ça comme ça, mais vraiment.
Et donc, quand tu es dans cette situation où tu as réussi à ouvrir ta conscience justement et à juste accepter, après, du coup, tu te sens beaucoup plus sur les sensations, du coup,
Ouais,
sur.
tu te sens dans les sensations, tu te détaches complètement en fait de la technologie. La technologie, elle vient. En fait, tu l'oublies, elle fait partie de ton corps, mais t'es plus du tout là-dedans, t'es plus dans tes pensées, dans ce. Voilà, t'es plus. Voilà, c'est juste un outil. La technologie, tu la mets de côté, en fait. C'est vraiment quelque chose d'annexe. Par contre, chose intéressante, c'est que moi, je me suis fait la réflexion, vu que je bosse beaucoup dessus. Un jour, je me suis dit, merde, ça se trouve, je n'aurais plus à faire l'amour avec des humains. Enfin, c'est super drôle de dire ça. Mais il y a ce côté où c'est tellement vaste, en fait, l'océan. Il y a tellement plein de choses à découvrir dedans, que du coup, parfois, tu peux vite. Tu peux te retrouver, et ça m'est arrivé de me retrouver à me dire, au lieu de faire l'amour avec mon conjoint, bah, je me ferais plutôt l'océan, quoi, comme ça. Bon, au final, tu l'acceptes, hein, et puis tu fantasmes dessus, et c'est pas forcément problématique. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez drôle, en fait, de se retrouver à avoir parfois plus envie de faire cette expérience-là que de l'expérience humaine.
Donc, il se passe quoi dans ta tête pendant cette interaction avec l'océan? Du coup, tu as vraiment tous les mouvements qui te chahutent, il y a
C'est
tous
bah
ces
par
caractères, comme tu dis, que tu donnes, qui du coup
voilà
font
en fait
réagir.
après ça
Toi, ça te
change
fait ressentir aussi différentes émotions, différents
ça,
caractères.
ça change tout le temps en fait au final ce que tu vis après moi je sais que j'aime bien j'ai vraiment ce sentiment que de pression
Ok.
one two one two
Ne soyez pas surpris, ça
ne
a coupé. Et ça reprend maintenant.
soyez surpris
T'avais envie de continuer
ça
à dire des
revient.
conneries? Ça revient et ça repart. Alors voilà, donc l'histoire c'est que ça a coupé et que ben, on s'est dit qu'on allait réenregistrer la suite. Donc vous avez raté la 45 minutes de discussion fantastique qui ont été coupées. C'est pour ça que là on est sur les quais aujourd'hui pour cette deuxième épisode. Peut-être qu'on le fera en plusieurs épisodes si ça plante encore. On
Ouais,
pourra
c'est
faire peut-être une
possible.
dizaine
De toute
d'épisodes
façon, on peut tout faire.
pour arriver à la faire l'heure 10. Et justement, voilà, le tout faire. Si on fait la continuité, la dernière fois, donc il y a à peu près 40 secondes pour ceux qui écoutent ça, vu que ça sera monté juste après, et
Il y a
ben
quelques
on
jours.
était au moment de parler de l'océan, du plaisir de l'imaginaire, de se perdre dans l'océan qui t'englobe et qui te chope. Et là, vu qu'on est sur les quais, on peut parler d'imaginaire
On peut parler de
et on est au bord
l'imaginaire.
de l'eau, donc tu dois être bien.
Ouais, je suis bien, ça me fait penser à mon projet. En fait, pour parler de ça, c'est marrant parce qu'il y a quelques jours, justement, donc on a parlé de l'imaginaire ensemble. Et entre-temps, je discutais avec ma coloc des rêves lucides.
Ah.
Voilà, donc ça pourrait être. Voilà, je discutais de ça et je lui disais que je cherchais à avoir des rêves lucides, mais que j'arrivais pas à voir mes mains. Et ça, c'est à cause de toi, Fabrice, c'est parce qu'il y a 2 ans, tu m'as parlé des rêves lucides et tu m'as dit, faut que tu vois tes mains. Donc ça fait 2 ans que je me focalise sur le fait que je ne vois pas mes mains dans mes rêves, mais au final, j'ai quand même un super bon contrôle de mes rêves. On peut me parler, je peux te répondre, je peux modifier la fin de mes rêves, inventer des trucs, enfin, je peux faire plein de choses dans mes rêves. Et ma collègue m'a dit, mais c'est ça des rêves lucides. Et donc en me renseignant, je me suis rendu compte qu'en fait, je faisais quasiment tout le temps en fait des rêves lucides, même que ça. Et de là, je me suis dit, mais est-ce que c'est peut-être grâce à ça ou pour ça que dans la vie de tous les jours, dans ce qu'on appelle la réalité, en fait, j'arrive à rêver tout le temps, enfin à
Ah.
m'imaginer facilement des choses, à me marrer.
Le fait que ton imaginaire soit ultra développé, ça serait parce que tu t'entraînes toutes les nuits.
En fait, parce que je fais des rêves lucides.
Grâce à tes rêves lucides.
Voilà. Peut-être, je sais pas.
Et, voilà, et donc, tu as découvert à peine maintenant que c'était des rêves lucides que tu faisais.
Ouais, complètement. En fait, je sais pas pourquoi je m'étais pas dit que c'était des rêves lucides. Je m'étais dit que j'avais un super bon contrôle, que c'était vachement bien, mais vu que je voyais pas mes mains, c'était pas des rêves lucides.
Merde. Voilà, du coup, j'ai foutu la merde avec mon histoire de main à voir. Ouais. Donc, comme quoi, la leçon de cette partie, c'est de se dire qu'il y a peut-être des indices, des fois, pour les choses, mais que les indices ne sont pas les mêmes pour tout le monde.
Exactement.
Peut-être que toi, c'était de voir tes pieds ou de te retourner, parce qu'il y a aussi ce truc, c'est de pouvoir se retourner sur soi-même, changer de direction.
Ou lire, par exemple, moi, je sais que j'arrive à lire. Je lis des phrases qui me parlent. We are the people, we are colors.
Tu lis des phrases dans les rêves.
Ouais, je lis des phrases
et
sur
donc,
des portes.
Du coup, quand tu es sur des portes, je pousse des portes. Et du coup, quand tu es dans le rêve, tu sais que tu es en train de rêver. Parce que ça c'est vraiment le truc, c'est de te dire je sais que je suis en train de rêver.
Quasiment tout le temps. Et c'est pour ça que des fois, par exemple, quand quelqu'un se réveille, mon copain se réveille avant moi, des fois il me parle et je lui dis attends deux secondes, je finis mon rêve. Ou je lui réponds un peu à cette question et je lui dis là je suis en train de faire ça, laisse-moi finir. Et du coup, je finis mon rêve, donc je lui donne la fin que j'ai envie. Et puis après, je me réveille.
D'accord.
Voilà. Ou par exemple, il y a deux nuits, justement, j'ai remarqué que j'étais dans mon rêve, donc je savais que j'étais en train de rêver, je voyais les. Comme dans un rêve, quoi, vous avez tous déjà rêvé. Et je me suis dit, ah tiens, vu que je suis en train de faire un rêve lucide, qu'est-ce que je suis en train de faire en même temps ? Donc pendant que j'étais en train de rêver, en même temps, j'essayais d'analyser ce que je faisais et j'ai eu l'impression d'avoir mes yeux qui bougeaient à l'intérieur. Alors je ne sais pas du tout si du coup, ça aussi c'est un rêve ou si vraiment nos pupilles à l'intérieur, sous nos paupières, bougent.
Alors ça, c'est une.
Je ne sais pas du tout.
Pareil, je ne veux pas te bloquer dans des nouveaux principes de quoi que ce soit. Mais j'avais lu un truc là-dessus et ils expliquaient. En effet, les gens qui avaient la facilité à rentrer dans des rêves lucides pouvaient faire un peu le cheminement inverse. Tu sais, quand tu n'arrives pas trop bien à rêver, du coup, il faut déjà que tu arrives à te rendre compte que tu es dans un rêve alors que tu es en train de dormir. Ouais. Et ceux qui sont dans un rêve lucide peuvent arriver à faire des tests pour voir qu'ils sont en train de dormir de l'autre côté. Et donc, ils disent ça, qu'ils sentent dans le rêve qu'il y a leurs yeux qui bougent sous leurs paupières fermées.
Ouais, bah voilà, bah du coup, j'ai pas encore regardé, je me suis même dit, il faut absolument que je participe à une recherche, c'est trop bizarre, ils auraient plein de trucs à. Bah, je sais pas, moi ça m'intéresse, du coup ça m'a beaucoup intéressé. Et du coup, l'imaginaire m'intéresse beaucoup, par exemple, comme je disais, j'ai la notion de fantasme qui est une notion qui m'a toujours intéressée en tant que sexologue, en tant que personne. Typiquement, d'aller ouvrir cette boîte de Pandore, ce que j'essaye de faire aussi avec mes patients, en fait, de leur dire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, quoi. Va explorer, il y a plein de choses à découvrir. Et donc, dans la sexualité, c'est le fantasme. Mais je ne sais pas si, du coup, vu qu'on a coupé, je ne sais pas si dans ce podcast-là, j'ai parlé des monstres. Mais,
non, pas encore. Les monstres,
ouais,
c'est censé arriver après.
Voilà.
C'est génial de parler d'un truc à des gens qui ne l'ont pas entendu la première fois.
Vrai.
On leur dit que ça existait, mais qui ne l'ont pas entendu.
Ouais,
du coup, ils peuvent imaginer le podcast qu'on a eu avant.
On parlait des monstres.
Pendant qu'on est en train d'en faire un nouveau. Et du coup, ils peuvent être frustrés de se dire que c'était certainement mieux avant, mais ça n'aura jamais existé.
Exactement. Enfin, pour nous, ça existait, mais pas pour vous.
Exactement. La réalité, comme quoi, elle est vraiment très subjective.
Exactement.
Et question, dans tes rêves, donc tu vois en couleur, est-ce que c'est vraiment très proche de la réalité, de ce qu'on a là aujourd'hui,
ouais,
au soleil magnifique, avec cette eau qui
brille ?
Je vois
hyper bien en couleur et surtout, je m'en souviens super bien. C'est-à-dire que là, et ça, là, c'est une réflexion que souvent les gens, quand je leur raconte mes rêves, me disent « mais c'est pas possible que tu te rappelles de ces détails ». Du style, à un moment, j'avais rêvé du père de ma coloc et il portait un pantalon… alors, il y avait d'un côté, à droite, c'était bleu et de l'autre côté, c'était jaune. Enfin, comment on appelle ça, une manche de pantalon, enfin
une
jambe de
pantalon. Jambe de pantalon, ouais.
Voilà, je me rappelais exactement de son visage, des inscriptions qu'il y a écrites sur la porte. Enfin voilà, j'ai des détails vraiment super précis dans mes rêves que je me rappelle très bien.
Et très souvent, quasiment tout le temps.
Franchement, je pense que je me rappelle de mes rêves quasiment pas toutes les. Je dois rêver à peu près toutes les nuits. Ou je me rappelle de mes rêves à peu près toutes les nuits, ouais, on va dire, ou toutes les deux nuits. Et par exemple, peu importe ce que j'ai pu. Il y a plein de gens qui disent après une soirée j'arrive pas à rêver, si j'ai fait ça ou ça je peux pas rêver. Moi ça m'a jamais empêché de rêver quoi que ce soit, même de fumer de la Marie-Jeanne. Voilà, comme exemple par exemple.
D'accord, ok. Parce que c'est vrai que moi ça m'arrive de temps en temps de faire des rêves qui s'apparentent à des rêves lucides, mais c'est genre une fois tous les 6 mois. Du coup, je peux me rappeler un petit peu de choses qui étaient écrites ou que j'ai pu voir ou de ressentis surtout. C'est les ressentis qui sont super forts, je trouve, dans les rêves.
Ouais, complètement.
Mais moi, le problème, c'est que vu que je ne suis pas habitué à vivre des rêves lucides, c'est dès le moment où je commence à me rendre compte que je suis en train de rêver
et que du coup là ça prend vraiment toute la teneur de la réalité, où il y a vraiment les couleurs, les sensations et tout. À ce moment-là en fait je suis tellement, j'ai du mal à contrôler le fait que je kiffe tellement ce qui est en train d'arriver, c'est un peu magique du coup quand t'as pas l'habitude, ouais. Que du coup à ce moment-là ben, je deviens trop conscient et je me réveille. Et du coup après je me réveille, je fais oh putain, tu t'es encore précipité, fais chier du coup, c'était en train de bien se passer.
C'est marrant parce qu'en fait moi du coup je me rends compte que je fais peu de rêves normaux je pense. Et du coup je suis complètement habituée, mais un truc que j'ai toujours dit, pour le coup je le dis depuis que je suis un jeune enfant, c'est que ce que je vis dans mes rêves, je l'ai vraiment vécu. Et du coup bah, parfois ça fait marrer, mais je me rappelle d'un de mes rêves quand j'étais plus jeune, j'avais rêvé que j'étais un spray pour la gorge.
T'étais un spray pour la gorge.
Voilà, j'étais un spray pour la gorge.
Ok.
Et du coup, j'ai dit, mais non, mais je vois ce que c'est d'être un spray pour la gorge maintenant. Et franchement, je l'ai été, bah, je sais pas comment expliquer, mais pour de vrai, j'ai été un spray pour la gorge. Je vois ce que c'est. J'ai déjà été une lettre aussi. Le mu grec, c'est une sorte de U inversé qui se prononce M. J'étais ça une fois aussi. Enfin, c'est très bizarre, mais.
C'est fantastique.
Voilà, ou quand, je sais pas, même tu fais l'amour avec des gens dans tes rêves, quand moi je les revois, je me dis.
On a fait l'amour ensemble, tu sais pas.
Voilà, c'est moi qui ai choisi.
Alors attends, dans ce cas-là, si on rentre dans le détail de ce truc, quand tu fais l'amour avec les gens dans tes rêves, tu les vois physiquement ?
Ah ouais, je les vois physiquement.
Tu les vois nus ?
On fait... Ah ouais, je vois
tu peux,
tout.
Tu peux voir
on fait l'amour comme si on faisait l'amour.
Tu peux voir des détails de leur corps nu ?
Ouais, je vois des détails.
Et du coup, est-ce que tu as déjà essayé de vérifier si les détails de leur corps nu, eh ben, ils étaient pareils dans la réalité alors que tu les avais jamais vus nus ?
Alors, en fait, non. Je vais reprendre. En fait, quand je vois vraiment des détails, c'est des personnes que je connais. Que j'ai déjà vu nu.
Ah, que tu as déjà
voilà,
vu.
Voilà, sinon ça va plutôt être des situations et du coup je vais avoir que plutôt, je vais plutôt me positionner sur des choses que je connais. Enfin, ce qui va être en lumière, on va dire, dans mon rêve, ça va plutôt être des choses que je connais, par exemple le visage,
d'accord.
Voilà, les mains, etc.
Donc tu peux pas faire un check de si les rêves sont juste un monde de l'imaginaire ou si les rêves sont en fait une autre dimension de l'existence.
Oui, je pense qu'après tu fais un prolongement dans ta tête, mais.
Okay.
Enfin voilà du corps, mais du coup il est plus flou.
Et depuis quel âge tu rêves du coup ? Depuis vraiment que t'es toute
depuis
petite ?
Toujours, depuis
et,
toujours.
Et tu sens que ça a toujours été.
Bah oui, parce que par exemple, tu vois, je me souviens de plein de rêves de cauchemars ou autres que je faisais quand j'étais petite, par exemple. Il y a eu plein de. Par exemple, j'ai un rêve que j'aime, que j'ai vraiment adoré, où j'étais à Strange City. Et Strange City, enfin je devais aller là-bas. Donc. Du coup, il y avait plein d'étapes, de choses à faire. Typiquement, à un moment où je marchais sur un fil qui était donc pas dans l'espace, mais tendu entre deux arbres. Et au niveau de mon champ de vision, il y avait un deuxième fil. Et je devais déposer des noisettes en équilibre sur le fil. Et il y avait un espèce de lémurien qui venait les manger. Et à chaque fois qu'il y avait une noisette qui tombait parce que je l'avais mal mis, ah bam, je recommençais le truc à zéro. Ou alors, j'étais dans des rayons de magasins, il y avait des escalators qui descendaient. En fait, tu sélectionnais tes produits en fait en descendant de l'escalator, donc tu pouvais pas marcher. Et derrière moi, il y avait toute une troupe de personnes qui faisaient plein d'instruments de musique, de la flûte de pan, des trucs comme ça. Et bref, on arrivait dans un endroit, dans un accueil, et on demandait où était Strange City à une nana. Et je me rappelle très bien, elle avait trois narines, et j'arrêtais pas de dire à mes potes, putain, je vous dis qu'elle a trois narines. Elle a trois narines. Regardez, c'est vraiment bizarre. Et cette image de cette nana avec ses trois narines qui me parle, elle m'est restée bloquée. Et en fait, Stone City, c'était une ville où, du coup, on y allait, où à chaque fois que tu faisais un pas, tout le décor changeait. Et en fait, au bout de 3-4 pages, j'ai commencé à dire aux autres, oh là là, en fait, faut pas aller là-dedans. C'est vraiment une très mauvaise idée. Et du coup, on a trouvé un moyen de s'en sortir. Voilà, bon, bref, je vais pas raconter tout le rêve. Mais on a trouvé un moyen de s'en sortir.
C'est
mais
génial
par exemple,
de
les décors changeaient vraiment à chaque. À chaque pas, c'était horrible en fait. C'était pour le coup, j'ai très vite compris que je valait mieux pas que j'aille là-dedans en fait, dans cette ville. Étrange.
D'accord. Et c'est à quel âge ça ?
Franchement, je pense que j'avais 14 ans, un truc comme ça.
Ok.
Voilà, non mais c'est vraiment vieux en plus comme rêve.
Et tu t'as jamais failli y retourner à Strange City
Non, pour le coup, j'essaie d'expérimenter dans des nouveaux mondes. Et des fois, par exemple, dans mes rêves, je rigole. Je rigole parce que je me marre de ce que je vois en fait. Je sais que c'est un rêve, mais du coup je me dis non mais c'est pas possible ce truc là.
Ça m'est arrivé une fois je crois aussi. M'arrive à faire un rêve lucide où je me dis de toute façon je suis en train de rêver. Ça part complètement sucette, mais du coup c'est trop drôle. Et du coup je me marrais de mon rêve
ouais,
aussi.
Voilà. Tu vois défiler le truc et ton imaginaire qui est construit et tu te dis mais c'est complètement timbré cet imaginaire. Mais c'est marrant.
C'est
heureux
super,
sont les fêlés car ils laissent passer la lumière comme on dit.
Exactement. Il laisse passer la lumière, il laisse passer l'imaginaire.
Exactement.
La lumière viendrait de l'imaginaire, tu penses ?
Est-ce que la lumière vient de l'imaginaire ? Notre perception de la lumière, peut-être ?
La lumière dans le sens... Il y a pas mal qui disent ça, c'est plutôt dans les courants un peu mystiques ou illuminés, voilà, qui recherchent la lumière spirituelle, la lumière de Dieu, de l'univers, tu vois. Et du coup, il y a toujours un très gros lien entre, entre cette lumière sacrée et l'imaginaire, entre ce qui vient justement du cerveau de l'imaginaire, donc plus le cerveau droit, par rapport au cerveau très rationnel et de la réalité du cerveau gauche.
Je pense que l'imaginaire t'éveille. Voilà, mais après de là... C'est... Et éveillé, on peut penser ça, on a ouais, de voir la lumière, je sais pas. J'ai pas d'opinion là-dessus. Mais
pareil, le rêve, ce qui est intéressant dans certains courants de pensée aussi, c'est que pour eux, c'est pas quelque chose qui se passe juste dans ta tête. C'est genre vraiment comme si ton âme du coup quittait ton corps et qu'elle allait se barrer dans d'autres formes de dimensions et que là-bas, tu retrouvais tous les autres gens qui sont endormis ou d'autres formes de vie qui sont plus dans la réalité matérielle.
Ouais, ce serait possible.
Et j'avais lu un truc sur ça par des gens qui faisaient des sorties de corps aussi et qui disaient que justement, quand ils font leur sortie de corps et qu'ils partent dans ces espèces d'autres dimensions, ils rencontrent les gens qui dorment et du coup, ils peuvent pas interagir avec eux parce que si justement, ils sont pas en train de faire des rêves lucides, ils sont juste en train de errer dans le décor. Et des fois, ils ont des petites bribes où du coup, ils se réveillent comme ça, ils voient un truc. Et du coup, ils expliquaient le côté rêve de mauvaise qualité, comme par exemple moi, je peux avoir, qui est que quand tu te réveilles, tu vas avoir quelques souvenirs, mais plein de briques déconnectées qui n'ont rien à voir ensemble. Parce qu'en fait, c'est comme si tu t'étais juste réveillé dans ton rêve à certains moments, dans des univers qui n'ont rien à voir. Du coup, tu as juste des bribes de trucs.
Oui, tu n'as pas la continuité.
C'est ça. Et ceux qui ont les rêves lucides, du coup, ils peuvent arriver à faire comme dans ta ville... Strange City là, et ils peuvent du coup switcher d'univers quasiment n'importe quand, mais ils ont toujours le fil de conscience
fil
qui est là et ils peuvent suivre le truc, ouais.
Ouais, complètement.
Et du coup, les mecs qui faisaient les sorties de corps disaient que justement, avec les gens qui faisaient les rêves lucides et eux, ça s'apparentait à la même chose, ils pouvaient communiquer avec eux. Et sauf qu'eux, ils savaient qu'en fait, ils étaient allés discuter avec des gens, alors que les gens qui font juste des rêves lucides et qui sont pas forcément sur la même croyance par rapport à tout ça, quand ils se réveillent le matin, ils disent putain, c'est ouf. Je me suis retrouvé à me taper des délires avec un gars que je connaissais pas, mais j'avais l'impression que je connaissais depuis super longtemps.
Ouais, en fait, c'est peut-être eux qui sont allés les visiter.
C'est ça. Et du coup, c'était exactement ça. Et je trouvais ça fascinant de se dire que ici, on est dans la réalité, mais qu'en fait, c'est juste une forme de réalité parmi plein d'autres. C'est juste que celle-là,
elle est
stable, en fait. Voilà, c'est ça. C'est une sorte de réalité raccord, alors que dans l'autre réalité ou les autres réalités où on va quand on dort, en fait, c'est complètement connecté sur la volonté de ce qu'on a envie et ça complètement. Part complètement ensuite.
Et au final, tu vois, quand tu viens contacter, parce que du coup, pour parler de ça, parce que je te disais, dans la réalité, quand tu rêves dans la réalité, c'est-à-dire tu marches dans la rue, tu t'inventes des trucs, tu t'inventes des scénarios, etc. Ou par exemple, dans la sexualité, quand tu parles des fantasmes, du coup, moi, je dis beaucoup aux gens, mais utiliser ces fantasmes, c'est la base de la sexualité, c'est génial. Et du coup, devenir aller... en fait, connecté avec... Enfin, je pense que c'est arriver à être dans un certain rêve lucide pendant que tu fais l'amour, en fait, le fantasme. Quand tu viens contacter, en fait, ton fantasme, c'est ça. C'est tu fermes les yeux, t'es contre l'autre, et en fait, imagine que c'est... bah, forcément, je sais pas...
L'océan.
Voilà, que ça peut être l'océan, ou que, je sais pas, il a des tentacules si t'as envie de te faire un monstre. Voilà.
On pourra parler du monstre
voilà,
juste après.
Mais, Ou que tout simplement, en fait, t'es dans une situation qui est pas... par exemple, t'es pas dans ton lit, mais t'es ailleurs. Ou, ce que je dis, une main sur l'épaule dans la sexualité, c'est rarement qu'une main sur l'épaule de manière basique. Ça vient contacter plein de désirs, en fait, de, par exemple, de soit soumission, domination, etc. Enfin, voilà, on rejoue beaucoup de désirs infantiles, mais d'autres choses dans la sexualité. Et c'est un petit peu cette capacité-là dans le fantasme, à venir le contacter et vraiment être dans un sorte de rêve lucide avec l'autre, en fait.
Ouais, donc du coup, c'est un rêve partagé sans dormir.
Voilà, c'est un rêve partagé sans dormir. Et tu es quand même dans un état de conscience un petit peu modifié au moment où quand tu fais l'amour, enfin, du moins une fois que tu te portes sur ton fantasme, tu n'es plus vraiment là. D'ailleurs, c'est ce que dit Esther Perel et que je reprends très souvent, c'est une sexologue. Ouais, ce qui dit dans la sexualité, il faut être à l'intérieur de soi en présence de l'autre. Mais c'est un petit peu ça en fait. C'est à l'intérieur de soi, dans ses fantasmes, dans ses rêves, et en même temps en présence d'une réalité qui est ici l'autre.
Ok.
voilà.
Et là où c'est intéressant par rapport à l'imaginaire, du coup, pour la sexualité, c'est que le fait de jouer avec ses fantasmes et de s'autoriser justement à rêver en étant éveillé, potentiellement, ça peut aussi favoriser derrière après les rêves quand on est endormi.
Ouais, je pense aussi.
C'est peut-être une mécanique qui est connectée dans les deux sens.
Complément, par exemple, il y a ça, on en discutait avec pas mal de personnes. Au final, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui font très peu de rêves érotiques. En fait, ils vont en faire une fois très rarement. Et, bon, peut-être parce que c'est mon milieu, du coup, j'en fais beaucoup. Mais, mais oui, voilà, je pense que ça aide aussi. Une fois que tu arrives à rêver, tu peux rêver un peu de tout. Tu peux choisir ta réalité dans tes rêves, mais du coup, choisir aussi les rêves que tu veux mettre dans ta réalité. Enfin, par exemple, c'est toujours la même chose. Tu as le choix de traverser une rue en disant que c'est une rue, hop là, et puis il n'y a rien d'intéressant. Ou de traverser la rue en chantant, en te donnant un caractère, en te donnant une mission, en créant de l'enchantement en fait, autour de toi, en diffusant de l'onde de charme, en discutant avec les gens, par exemple.
Je trouve ça super intéressant ce que tu viens de dire là, sur l'alternance en fait, des deux mondes. Parce que tout à l'heure, tu parlais de ton Transcity où à chaque pas, ça pouvait changer d'univers. Donc du coup, en gros, ça devenait compliqué et un peu flippant parce que c'était complètement instable. Donc ça veut dire que tout est possible, mais en fait tellement tout est possible que du coup, ben, tu finis par t'y perdre dedans. Et dans l'autre sens, là, notre réalité, elle est ultra stable. Et
donc,
elle peut être ultra chiante et bloquée. Et donc, le fait de travailler à mettre de l'imaginaire et du fantasme dans cette dimension-là, ça la rend un peu plus souple et ça la rend un peu plus fun et libre. Et en même temps, ça aide aussi à libérer ses rêves, mais peut-être aussi à plus les calibrer pour pas non plus que ça parte dans tous les sens
et
n'importe quoi.
Ce que je trouve intéressant, après, tu vois, c'est sur la question, par exemple, de la sécurité et de la liberté, par exemple. Ce que j'ai remarqué, même au niveau en rencontrant des gens, c'est qu'il y a des personnes qui ont besoin d'une sécurité, je parle en général, pour arriver à accéder à la liberté. Puis il y a des gens qui ont besoin de liberté pour se sentir en sécurité. Enfin, bref, c'est un peu par où on passe pour acquérir ces deux besoins d'aventure et en même temps de sentiment d'apaisement. On va dire ça comme ça.
Ça rejoint ton dominant-dominé aussi. Voilà, c'est les deux jeux
en
opposition qui se nourrissent.
Que tu vas jouer. Et dans la réalité tangible, tu es déjà en sécurité. Ta réalité, elle est ce qu'elle est. Donc en fait, pour moi, c'est un terrain de jeu qui est ultra favorable à la rêverie, au fantasme, au jeu, en fait, parce qu'elle est là, en fait. Donc elle ne va pas bouger. Par contre, toi, tu peux l'amener tu peux la bonifier tu peux lui donner une petite touche de peinture en plus en par exemple en souriant à quelqu'un. Je sais pas, la dernière fois j'ai vu quelqu'un bailler, je me suis arrêtée, je dis bah alors t'es un peu fatigué, qu'est-ce qui se passe, on a rigolé deux minutes. Ça crée du lien, c'est d'un coup j'ai modifié sa réalité. Voilà, il a modifié la mienne aussi en me répondant.
Alors, on serait dans la...
On
serait dans la réalité, donc un univers qui est suffisamment stable pour qu'on puisse arriver à y être assez en sécurité dedans, on va dire.
Ouais, ou du moins en France.
Ou du moins en France, voilà, on est dans un cadre qui est favorable à ça. Mais on est dans cette réalité-là pour justement pouvoir s'en amuser.
Moi, je pense que
jouer dedans.
Ouais, c'est un des intérêts. Je pense que les personnes qui rêvent peu sont malheureuses, un peu, quand même. Cette fois, c'est souvent des personnes qui ont peur du regard de l'autre, donc qui ont peur, en fait, qui sont guidées par leur peur et qui ont peur de perdre cette sécurité-là. Donc, ils ne vont surtout pas aller déranger, ils ne vont surtout pas aller modifier cette réalité-là par peur qu'elle s'écroule, alors que votre réalité, elle s'écroulera, entre guillemets, jamais. Enfin, voilà, ça sera toujours tangible. Et au même titre qu'il y a des personnes, par exemple, qui détestent rêver, qui font des cauchemars. Mais en fait, même dans les cauchemars, il y a des trucs intrigants et... Faut rentrer dedans.
Ouais, faut arriver à accepter le cauchemar, quoi.
Ouais, et moi, par exemple, et quand je disais, on parle de liberté ou de sécurité, par exemple, moi, le fait de modifier ma réalité en étant, par exemple, assez sociable, en parlant à des gens, en étant, c'est cette liberté-là que je prends qui me permet de me sentir en sécurité. C'est parce que je peux encore parler dans la rue à quelqu'un, parce que je peux déposer mon armure émotionnelle, je sais pas comment dire, voilà. Mon armure à un moment et être naturel face aux gens, que je me sens en sécurité, que ça me prouve que le monde il fonctionne bien et que ça va. Le jour où je peux plus faire ça, où je peux plus rêver, ça veut dire que mon esprit, il est constamment pris par des réalités négatives, des angoisses, des peurs, de l'incertitude, etc. Qui puissent...
Et c'est souvent ce que tu entends dans des discours d'adolescents, par exemple, qui sont en train de justement basculer de l'enfance à l'âge adulte, où leur truc, c'est ils ont un besoin de se sentir acceptés.
Ouais, voilà.
Et du coup, si je rejoins ce que tu dis, tu sens que tu as besoin de pouvoir mettre une armure, parce que tu comprends qu'il faut te protéger, mais en même temps, tu as besoin de la faire tomber avec pas mal de gens pour te dire c'est bon, je peux encore me sentir vivant, en fait, ouais, sans ça, bien. Avec des gens. Et je trouve ça intéressant dans le sens où en fait tout ce qu'on cherche pour pouvoir se sentir vraiment vivant, c'est de pouvoir enlever cette armure.
Oui, ouais, voilà, c'est ça.
Alors qu'à cause des peurs qu'on se traîne, on ne fait que renforcer cette armure et elle devient de plus en plus solide et on a de plus en plus de mal à l'enlever. Et au final, après, on arrêterait de croire au fait que...
On peut l'enlever.
Puis peut-être même qu'on oublierait. Un peu comme quand on n'arrive pas à rêver la nuit.
Ouais.
On se dit, en fait, je rêve pas. Si, on rêve, mais c'est juste qu'on s'en rappelle pas. Ouais, et bien là, ça serait... je me rappelle même plus comment c'était avant que j'ai cette armure. Et du coup, c'est à ce moment-là où du coup, la vie se retrouve à être très fade parce qu'au final, tu n'arrives plus à te sentir...
Tu n'arrives plus à connecter ton être intérieur. Des fois, ça fait très gourou quand on parle comme ça. Mais
tu peux être gourou, là, au bord de l'eau, comme ça, c'est très bon.
Gourou au bord de l'eau, mais...
Gourou du sexe. Non.
Mais c'est un peu ça, c'est que beaucoup de gens... Moi, je vois beaucoup de gens, par exemple, qui sont guidés plus par leur peur que par leur désir et leur envie. Et c'est quelque chose que j'essaye de, on va dire, de changer chez, par exemple, mes patients ou... Quand je discute avec certaines personnes, bon, toi, tu es complètement guidé par ton plaisir.
Oh non, t'inquiète pas,
voilà.
Il y a quand même des peurs.
Oui, mais on est tous un peu guidés quand même par nos peurs, ça, c'est normal. Mais y en a qui le sont plus que d'autres. Ils ne vont pas oser, par exemple, parler en soirée à quelqu'un parce qu'ils vont se dire qu'ils sont peut-être nuls, du coup, et qu'ils ne sont pas intéressants. Ça, c'est la peur de ne pas avoir d'estime, qu'on ne les estime pas, alors qu'au final, on s'en fout. Donne-nous ce que tu as à nous donner, on est là pour t'écouter.
Et puis,
même si tu nous donnes rien, c'est pas grave. En fait, ce qui est agréable, c'est d'aller voir qui t'es à l'intérieur de toi. Et c'est des gens qui vont se bloquer, qui vont se sous-estimer, qui vont être guidés par le manque de confiance en eux.
Moi, ce qui m'en fout sur ce sujet, justement, des fois, c'est justement j'ai l'impression que les gens vont pas. Il y a des gens qui vont être bloqués, qui vont pas oser parler aux autres, parce qu'ils ont pas envie de se taper la réaction en face de c'est qui lui, pourquoi il me parle. Qu'est-ce qu'il me raconte, il est chelou, tu vois. Et en fait, cette réaction des personnes, ça aussi, c'est une réaction qui est basée sur la peur, parce que la personne est sur la défensive, et donc du coup, elle n'est pas du tout ouverte à recevoir quoi que ce soit qui arrive en face. Donc au final, ce qu'on pourrait dire à ces personnes, et même ce que je peux me dire à moi de temps en temps, parce que ce n'est pas tout le temps que je vais parler facilement aux personnes, c'est que si jamais la personne en face, si toi, tu as été complètement ouvert, sincère, et que tu n'as pas non plus été... en mode viol, rentre dedans, à parler trop fort ou à l'obliger à t'écouter, et que cette personne te réceptionne en mode fermé, c'est juste que c'est elle qui avait ses peurs qui l'a fermé. C'est pas toi qui es nul.
Oui, et puis après, il y a le côté oser. Apprendre, parfois, on a besoin de personnes pour oser autour de nous. Par exemple, moi, je sais que je suis très sociable, j'essaie de faire pas mal de choses, mais rien que... Il y a certains... Je sais pas, par exemple, écrire des articles. Au départ, je me rappelle, je voulais écrire des articles, mais je me disais, c'est nul, personne ne va les lire, et puis de toute façon, ça intéresse qui. Et puis voilà, j'aime bien écrire, mais je me disais, j'avais peur de me confronter en fait au public et à sa réaction. Sous couvert de dire, ouais, moi, c'est pas mon truc, machin, non, je veux pas me montrer. En fait, c'était vraiment la peur du jugement des autres. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à en parler d'ailleurs, tu étais là, à toi et à d'autres gens, en disant, je vais écrire des articles, je vais lancer un blog, nanana. J'ai écrit mon premier article et bim, je l'ai directement transféré à tout le monde. Et je ne l'ai pas relu, cet article-là, parce que j'étais complètement stressée à l'idée d'avoir des réactions. Et finalement, j'ai eu de bonnes réactions, donc je me suis forcée à en écrire plein. Et aujourd'hui, écrire un article, chaque fois, je le diffuse de tous les côtés et je m'en fous. Enfin, j'ai pas, j'écoute les remarques, ça ne plaît pas, qu'est-ce que je peux changer, etc. Mais j'ai moins ce souci-là. Pour la radio, c'est pareil. Quand j'ai fait ma première émission de radio, je tremblais, je croyais que j'allais mourir de trac. Je me disais, mais alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter? Et puis après, j'ai eu des retours positifs, d'autres qui m'ont moins positifs, qui m'ont dit « travaille un peu plus ton élocution ». Et là, par exemple, mon nouveau, plusieurs fois, on m'a parlé de faire des vidéos justement sur Instagram, les réseaux sociaux. Et je suis très mauvaise en réseaux sociaux. Je pense que pareil, dire « je suis très mauvaise en réseaux sociaux », ça ne m'intéresse pas. C'est plutôt pour.
Ouais, j'ai peur de mettre mon image en avant.
En fait, j'ai peur du regard de l'autre. Au final, j'ai peur que ça plaise pas, j'ai peur d'être nul, j'ai peur que ça soit pas intéressant. Et là, tu vois, bah, j'en ai parlé récemment à des amis qui m'ont dit non, maintenant, il faut que tu le fasses, c'est hyper important, fais-le. Et du coup, j'ai décidé aujourd'hui que j'allais le faire, d'ailleurs, après le podcast.
Podcast.
Et je me dis, bah oui, en fait, il faut que. C'est dur d'arriver à se dire, bon, allez, je m'en fous, je me force un moment, et une fois que ça sera lancé, ça roule. En fait, c'est pas si difficile que ça. Mais il faut. C'est faire ce petit saut-là qui est difficile, ce petit changement, en fait.
C'est vrai qu'à chaque fois, ça se joue potentiellement juste sur ce petit truc.
Ouais, ce petit truc qui est
le
difficile.
Le petit truc qui fait que tu vas commencer à parler à quelqu'un, le petit truc qui fait que tu vas monter sur une scène, le petit truc qui fait que tu vas commencer à chanter. Le petit truc qui fait que tu vas...
Que tu vas reprendre ta sexualité en main, que tu vas reprendre ta vie en main, que tu vas créer des bouleversements, changer de pays, peu importe, changer d'études.
C'est le petit truc qui fait que tu es converti dans le réel, en fait. C'est ce que je suis en train de me dire là en discutant avec toi. C'est le côté... tu peux dans ta tête t'imaginer tout plein de scénarios possibles, imaginables. Là, je pourrais m'imaginer tout le reste de mon après-midi dans ma tête. Ça se passe comme ça, ta-ta-ta-ta-ta. Et puis après... Là, je vais commencer à l'enclencher, donc je vais faire ce petit truc d'y aller, si je me mets pas un truc à trop de pression. Et puis au final, ça va jamais se passer comme j'avais prévu dans ma tête, c'est sûr.
Ah non, jamais.
Sauf si je me sors un truc qui peut être vraiment prévisible pour me rassurer, c'est-à-dire là, je vais aller à Franprix acheter du café et je repars avec ma petite boîte de café que j'aurais payé avec ma carte bleue et je rentre chez moi. Là, à la limite, je pourrais peut-être y arriver. Mais forcément, c'est quelque chose qui est pas fou. Donc du coup, ça peut être rassurant et du coup, je peux m'enfermer là-dedans aussi, quoi.
Il y a des personnes qui, par exemple, des personnes un peu perfectionnistes qui ont tendance à tout organiser, tout cadrer. Et ça, c'est parce qu'ils ont peur en général de pas maîtriser en fait leur environnement. Donc ils ont besoin de tout cadrer, comme ça, ils sont sûrs de pouvoir maîtriser et ça les aide. Et ces personnes-là, en fait, dès qu'il y a quelque chose qui se passe pas normalement, elles s'énervent, elles sont super énervées. Ça devrait pas être comme ça. C'est les gens qui s'énervent un peu dans le métro, dans tout ce qu'il y a, parce que c'est pas normal. Parce que justement, elles gèrent mal cette incertitude. Ça leur, c'est une incertitude.
La phrase d'ailleurs est très bonne. C'est pas normal.
Voilà, ça leur fait peur. Moi, par exemple, avec mon tempérament, les certitudes, les cases, on me dit il faut, t'es obligé de, mais j'y arrive pas du tout, c'est pas possible. Moi, j'ai besoin d'être guidée, par exemple, par le côté plaisir, jeu. Et si tu, à partir du moment où tu me dis à telle heure, par exemple, je suis toujours en retard, c'est un super bon exemple, j'arrive pas à être en. J'arrive pas à avoir de planning, ça me gave en fait. J'ai besoin de cette incertitude de pas savoir ce que je fais le lendemain.
C'est du coup, t'arrives à avancer comment au quotidien sur ta semaine? Tu te laisses guider par le flow?
J'ai quand même mes passions, donc là pour le coup c'est cadré. Et, ouais. Mais des fois c'est dur, hein. Franchement des fois c'est dur. Mais du coup je les cadre dans mon agenda et après je fais tout à l'instant T. Bah par exemple, pour donner un exemple, ce matin je m'étais dit que j'allais bosser sur un projet de chatbot que j'ai et au final je me suis réveillée, j'avais envie de pas de rien faire mais j'avais envie un peu de rien faire, du coup j'ai lu, voilà. Après je me suis dit que j'allais faire du sport, je suis pas allée faire du sport, du coup j'ai décidé de venir te rejoindre. Là tu vois, on va finir le truc, je me suis dit que j'allais aller faire une vidéo mais ça se trouve je vais pas la faire, j'en sais rien. je sais jamais en fait ce que je fais voilà, je sais jamais ce que je fais à l'instant dans les, je sais pas, 20 minutes après.
Et tu pourrais dire que c'est un peu une sorte de, tu suis ton ressenti sur le moment, ouais. Ton intuition, ton...
Je suis vachement mon intuition et du coup, j'ai un petit peu ce côté, j'aime bien faire qu'est-ce que je veux. Non mais vraiment, j'ai un petit peu ce côté-là. Ce qui fait que du coup, j'aime pas du tout me forcer, par exemple. J'aime bien prendre du temps à rien faire, j'aime beaucoup ça. Marcher, j'aime pas prendre les transports en commun, donc je marche tout le temps, ce qui fait que je bouge de partout, mais ça me prend du temps. Je considère pas que je fais rien, mais je marche.
Et est-ce que tu verras un lien entre ton intuition et ton ressenti et ce qu'on parlait avant sur l'imaginaire, le rêve et le fantasme?
Ouais, complètement. En fait, je le vois dans le sens où je pense que je suis beaucoup dans ma... En fait, je suis très sociale, mais en même temps beaucoup toute seule. Je suis beaucoup toute seule, donc beaucoup, je marche beaucoup et je m'imagine toujours des trucs quand je marche. En fait, je rêve tout le temps. Et je pense à plein de trucs que je vais inventer. J'ai toujours un milliard d'idées qui n'arrivent jamais au bout. J'arrive jamais à les réaliser. Mais j'y pense, c'est déjà bien, c'est ce que je dis. Mais et donc, j'invente des machines, des trucs qu'on pourrait faire. Je m'imagine, je me dis, ah tiens, ça c'est intéressant. Je te donne une idée comme ça, mais...
Vas-y, envoie donne tes idées. Des fois que les gens les récupèrent, envoie-en deux, trois.
Je me disais, ça serait trop bien de faire des métro-conférences. J'aimerais trop faire ça. Et je me dis, il faudrait que je fasse 2 minutes de conférence dans le métro. Tu te poses devant dans le métro et tu fais une petite conf pour les gens. Bref, bim, tiens, on pourrait faire ça. Je me disais, bah, tiens, il faut que je fasse des vidéos, il faut que je parle de ça. Ah tiens, ça serait super de faire de la thérapie sexo en VR, en réalité virtuelle. Des fois, je me dis, ah tiens, ça serait trop cool d'avoir un filtre réalité augmentée où le ciel il change de couleur à chaque fois. Là, j'ai plein de projets que je ne peux pas exactement parler maintenant dans le podcast parce que c'est un peu des projets secrets, donc je ne vais pas en parler là. Mais qui viennent comme ça très rapidement. Du coup, voilà, j'imagine des trucs à faire, des trucs à lire, des trucs à écrire, mais que j'écris jamais, que je fais jamais, que voilà.
Et du coup,
mais
pas
que j'aime bien. Bah non, en fait, parce que j'aime bien, je les imagine, après je les oublie. Des fois, je les écris sur mon portable et je me rends compte que j'ai écrit plein de trucs. Je me dis, ah ouais, c'est vrai, j'avais pensé à ça, c'était pas
c'est pour ça que je te pose la question, parce que moi, j'ai cette espèce de manie d'être un peu collectionneur quand il y a des idées. Pareil, je me balade, je vais avoir une idée, je vais faire putain là-dessus où j'ai eu une discussion. Moi, c'est surtout quand j'ai des échanges avec les gens. Je finis la discussion en général, ça m'avait fait émerger 2 idées trop cool, je les note sur mon truc. Et après, pareil, à la fin de la semaine, je me rends compte que dans ma liste, j'ai 40 trucs. Du coup, j'essaie de les ranger dans un autre truc où je me dis que là, je vais les mettre en place. Et après, bien entendu, je les mets jamais tout en place, mais j'en mets quand même en place du coup petit à petit. Quoi. Mais toi, tu laisses filer.
Après, j'en mets pas souvent en place pour être honnête, ou alors je commence et je les finis pas forcément. Ben voilà, moi le vrai souci c'est que je pense à plein de trucs et que je suis en train de faire un truc et d'un seul coup, oh, regardez là-bas une libellule et puis hop, je suis partie vers la libellule et puis hop, il y a autre chose de notre côté et puis ah ben voilà. Et du coup, je dis souvent, je suis très dispersée, ce qui est une richesse en même temps et un gros handicap des fois. C'est-à-dire que je réponds, je commence à t'écrire un message, je le finis même pas, je me rends compte 3 mois après que je t'ai écrit mais que j'ai pas fini mon message. J'ai toujours 48 heures de battement dans mes réponses. Enfin, voilà, c'est plein de trucs qui peuvent aussi énerver parfois certaines personnes qui me connaissent peu, qui se disent mais toujours à droite, à gauche, pose-toi 2 secondes. Mais en fait, moi, c'est mon fonctionnement et je travaille dessus, je m'améliore. Mais voilà.
Tu sens le besoin de t'améliorer pour toi-même ou pour les autres?
Pour moi, j'ai vraiment besoin de m'améliorer pour en fait arriver à aller plus loin que de. En fait, il y a un moment, c'est bien d'ouvrir la porte, de commencer à pousser et de faire un pas dedans et de regarder vite fait, mais c'est aussi intéressant d'aller regarder les détails sur le mur. Et moi, j'ai trop tendance à ouvrir des portes, regarder, ah c'est génial, hop, ouvrir une autre porte, puis ouvrir une autre porte, puis ouvrir une autre porte, mais sans aller creuser assez profond. Je le fais dans la sexualité, enfin dans la sexologie au final, c'est le seul milieu où je le fais beaucoup.
Experte dans le sujet, voilà.
C'est le seul milieu où je le fais beaucoup parce que c'est une passion, mais j'ai besoin aujourd'hui, par exemple dans ma vie professionnelle, j'ai envie vraiment de m'inscrire dans le milieu cybersexualité, etc. Tout ce milieu-là, c'est un milieu qui m'intéresse beaucoup. Et je sais qu'à un moment, il va falloir un peu plus de rigueur. Et la rigueur, ça va commencer d'ailleurs aujourd'hui, en mars, on va dire, où je vais avoir déjà mon cabinet plus stable. Donc, j'aurai tous mes bouquins au même endroit et où je vais devoir m'imposer une certaine routine.
Ouais.
Une certaine rigueur, une certaine routine pour pouvoir être encore plus heureuse après, en fait. C'est pour ça que je veux le faire.
C'est intéressant parce que c'est vraiment moi ça me fait penser à cette notion d'équilibre entre le cerveau gauche et le cerveau droit, encore une fois. J'avais discuté dans un autre podcast avec Grégor, lui qui est plus sur le penchant. Lui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est neurosciences.
Ouais.
Et du coup, justement, il y avait ce lien avec la méditation ou d'autres pratiques comme le sport ou comme justement des trucs créatifs ou sur l'imaginaire, l'écriture ou quoi que ce soit, pour arriver en fait à faire en sorte, c'est comme si tu avais des liquides dans chacun des deux cerveaux et que le liant qui était au milieu, c'est pressurisé. Donc du coup, si jamais tu es tout le temps en train d'utiliser ton cerveau rationnel, donc tu es toujours en train de bien ranger, bien classer, bien réfléchir, bien structurer, nanana, en fait tu obstrues le passage pour le cerveau droit qui est le cerveau de l'imaginaire, du rêve et tout. Et donc, tu te retrouves à être dans un monde qui est bien rangé, bien propre, avec des bateaux comme ça qui font du bruit, tu vois, beaucoup de pétrole, parce que c'est fonctionnel, ça marche bien pour.
Faire des vagues.
Mais par contre, ça casse tout l'imaginaire du monde parce que ça. Mais voilà, après, on peut avoir de l'imaginaire avec les vagues derrière. Et je me suis déjà mouillé le pied d'ailleurs. Donc voilà, vous vivez un moment fantastique, on dirait que c'est la folie, mais en fait, c'est juste un bateau qui passe sur les bords de la Saône. Avec des vagues, voilà, c'est ça. Et les vagues te font penser à quoi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que tu surfes dessus? Moi, je surfe dessus. Moi, j'imagine un petit bonhomme en train de surfer.
Ça ressemble à une mer d'huile. C'est comme un vague.
Il y a pas mal d'huile dedans, je te rassure, avec tous ces bateaux, avec des gros moteurs. Et donc, le monde rationnel, si on est toujours dans le jus à fond sur les projets très rationnels et la réflexion, on ne laisse pas passer le cerveau droit. Et puis, d'autres personnes qui ont... d'ailleurs qui sont souvent l'extrême de ça, c'est les autistes. Si eux, du coup, ont rien du tout, ils laissent pas du tout passer la partie rationnelle. Donc en fait, ils sont pas cadrés, ils n'arrivent même pas à interagir avec l'environnement extérieur ou quoi que ce soit. Mais par contre, il y a un imaginaire de fou. En fait, ils sont entre eux, dans le rêve, en fait, continuellement, quoi. Quand ils dorment, quand ils vivent, ils sont dans le rêve. Et des fois, ça passe un petit peu et du coup, ils peuvent vite fait discuter avec des personnes autour d'eux. Et donc en fait, le jeu, ça serait d'arriver à alterner ces flux.
Ouais, ouais,
et pareil, un peu comme tu disais, j'imagine toujours plein de trucs, du coup, les idées. Ben en fait, les idées, c'est pas nous qui les créons. En fait, elles passent à travers l'embouchure de l'imaginaire pour passer dans le rationnel. Et là, quand on l'a dans le rationnel, on fait « Oh, Eureka !» Et du coup, on a envie de l'utiliser. Et vu que toi, tu as l'air de bien favoriser l'imaginaire, ben, au final, ton flux d'imaginaire, il passe beaucoup plus. Et tu te retrouves à avoir pas mal de choses qui arrivent tout le temps.
Après, du coup, moi, j'ai trouvé des solutions. En fait, par exemple, c'est ce que je me dis par rapport à… Parce que je sais que, par exemple, j'ai du mal à finir ce que j'entreprends. En général, vraiment, j'ai ce souci-là. Les finitions, les détails… Même en bricolage, j'ai vraiment du mal. Et du coup, ce que je fais, comme technique que j'ai trouvée, c'est d'utiliser mon environnement social. J'en parle aux gens. Je parle de tous mes projets à tout le monde. Et comme ça, j'ai un peu plus de pression pour les réaliser. C'est-à-dire que si je ne le réalise pas, j'aurai des personnes qui vont venir me demander, entre guillemets, des comptes dessus en me disant « T'en es où dans ce projet-là » Donc, ça me force un petit peu à les… C'est con, mais à garder ma ligne de conduite et à essayer de les réaliser et pas m'arrêter au premier… voilà, la première difficulté, première barrière. Et ça, c'est un vrai, c'est une vraie aide. Alors après, c'est ce que je dis, ça ne marche pas à tous les coups. Mais mine de rien, ça marche bien. Ou alors, à me focaliser sur trois projets. Je me dis, voilà, ça, c'est mes trois projets de l'année. J'aime ces projets-là, j'ai envie de les faire. Et
donc, les autres t'aident à ancrer dans le réel des choses que tu avais dans ton imaginaire.
Et du coup, j'en parle à plein de personnes. Et principalement des gens autour de moi. Par exemple, je donne l'exemple de mon copain qui lui, finit toujours ce qu'il entreprend. Et pour le coup, il a, malgré qu'il fasse beaucoup de choses… lui, je lui demande de me rappeler, de me forcer un peu. Par exemple, je vais lui dire, j'ai vraiment envie de faire ça. Donc, il va me demander souvent, bah, t'en es où, t'as lu quoi, etc. Bon, déjà parce que ça l'intéresse, je pense. Mais aussi c'est, en fait, c'est une vraie aide d'avoir des personnes qui te poussent à finir en te demandant. Voilà. Et moi, c'est ma technique.
D'accord.
Enfin, pour lutter contre mon papillonnage chronique. Voilà.
Il doit nous rester 5 minutes, Kate.
Ouais.
Pas de soleil, parce que le soleil est encore là pour un moment.
Ouais.
Et 5 minutes pour partager ce moment. Est-ce que tu veux nous parler des monstres ou de quelque chose d'autre pour finir?
Je peux vous parler du monde de Max?
Du monde de Max? Tu veux faire un finish sur le monde de Max?
Je sais pas, j'ai une énigme pour vous.
Allez.
On va voir si vous
bon.
Essayez de trouver, je vous laisserai.
On va voir si ça suit même à distance. Vas-y.
Si ça suit même à distance, vous
Allons-y.
Pouvez réfléchir pendant un moment. Dans le monde de Max, il n'y a pas d'air, mais il y a de l'oxygène. Dans le monde de Max, il n'y a pas d'arbres, mais il y a des plantes. Dans le monde de Max, il n'y a pas d'esprit, mais il y a des âmes. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de problème, mais il y a des solutions.
Dans le monde de Max, il n'y a pas d'être, mais il y a un soi.
Exactement. Dans le monde de Max, il n'y a pas de route, mais il y a des ponts.
Dans le monde de Max, il n'y a pas d'imaginaire, mais il n'y a pas de réel non plus.
Mais il y a de l'imagination.
Mais il y a de l'imagination.
Dans le monde de Max, il n'y a pas de… Dans le monde de Max, tu peux pas avoir mal au crâne, mais tu peux avoir la gueule de bois.
Celle-là, elle est pas mal quand même.
Celle-là, elle est sympa.
Dans le monde de Max, il y a du soleil, mais il n'y a pas de chaleur.
Exactement. Dans le monde de Max, il n'y a pas de lumière, mais il y a des loupiottes.
Une dernière.
Dans le monde de Max… Il y a… Ah, faut que je trouve un truc sympa.
Ah, oh, tu peux finir sur
dans
un
dans le monde
raté.
De Max, il n'y a pas de traboule, mais il y a des passages.
Voilà, comme ça, on finit sur la petite touche lyonnaise.
Voilà.
Fantastique. On va pouvoir continuer à profiter du soleil.
Ouais, merci.
C'était
en
bien.
Tout cas
ouais, ça va, t'as passé un moment.
Ouais, j'ai trouvé, mais c'était trop agréable.
Comme quoi, des fois, ça vaut le coup de rater le premier enregistrement.
Oui, parce qu'il fait plus beau que… Il faisait beau aussi.
Ouais, mais là, c'est pas mal. Bon, merci ouais, Kate.
Merci à toi.
À bientôt.
À bientôt.
Et voilà, c'est terminé pour ce premier épisode de l'année. Est-ce que vous êtes bien revenu dans la réalité? Est-ce que vous avez posé les pieds sur terre? Est-ce que vous vous êtes amusé à fermer les yeux pendant ces projections de l'imaginaire de Kate? Moi, en tout cas, j'ai passé un moment de voyage absolu. On est parti très loin explorer les limites du réel ou voir les limites de l'imaginaire. Je vous invite en tous les cas ce soir d'essayer d'expérimenter cette bascule, de se dire que quand vous allez fermer les yeux pour vous endormir, en fait, vous allez basculer dans une autre réalité qui, elle, est faite seulement de votre volonté. Et après, quand vous reviendrez ici parmi nous, dans cette réalité-là, eh ben, les contraintes, au final, sont peut-être là justement pour être des règles du jeu avec lesquelles on peut s'amuser. Je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast. En tous les cas, je vous invite comme à chaque fois à laisser des petites étoiles pour noter sur iTunes ou des petites étoiles sur Spotify ou sur n'importe quoi d'autre que vous utilisez. Ça permet de faire monter le podcast parce que, mine de rien, pour qu'on puisse partager des choses, il faut que les gens puissent les voir. Voilà. Je vous souhaite donc à tous de passer une très belle journée et de profiter du soleil du printemps qui arrive.